remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Et bienvenue dans Ondes Femmes, comme tous les mercredis de 17h à 23h dans Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui dans Remue Ménage, eh bien, une émission sur C'était pas tous les jours dimanche. Une exposition que vous pouvez voir en ce moment à l'annexe du musée d'ethnographie à Conches à Genève sur le thème La vie quotidienne du monde ouvrier à Genève entre 1890 et 1950. Et de nombreux invités et invitées dans notre studio aujourd'hui. Mais tout de suite d'abord, on se met dans l'ambiance. C'était pas tous les jours dimanche, même si pour certains quand même, les dimanches étaient quand même des jours agréables.
Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens. Sous les guinguettes, comme on chantait, le cœur bercé de tout refrain. J'étais grisé de mon bonheur, grisé d'air pur, et l'on rentrait les bras chargés de jolies fleurs, comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants, s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on se pécotait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, mais ce beau temps est bien passé. Sans un baiser, d'un air distrait, tu me dis adieu, toujours pressé. Alors je vis du souvenir des soirs d'été où l'on faisait des rêves fous pour l'avenir. Comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, comme il est loin ce joli temps où je chantais comme un fin son. J'ignorais tout, les trahisons, la jalousie, la voix qui ment. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de...
La parcelle était un verger. Aujourd'hui, on parle des jardins ouvriers, mais à l'époque, ils n'avaient pas de nom. Elles n'étaient pas régies par une fédération. Ce n'étaient pas des jardins de loisirs avec abondance de fleurs et de petits chalets au modèle standard. Mais je puis vous assurer qu'ils furent pour certains une bénédiction.
Alors les jardins ouvriers, eh bien, c'est ce que vous découvrez quand vous entrez dans les jardins de la maison de l'annexe de Conches où se trouve l'exposition « C'était pas tous les jours dimanche ». Alors je vous présente quand même rapidement qui sont les réalisateurs de cette exposition puisque certains d'entre eux, certaines d'entre elles sont là aujourd'hui avec nous en direct dans notre émission. Alors tout d'abord Christine Détraves, bonjour Christine,
bonjour.
Qui est la conservatrice du musée et qui est un peu la personne qui a... gérer tout le travail de réalisation de cette exposition. À ses côtés, Alda Georgi, qui est du collège, de la Fondation Collège du Travail. Et il vous expliquera tout à l'heure comment ça se fait que la Fondation du Collège du Travail s'est trouvée aux côtés de l'annexe du musée d'ethnographie pour faire cette exposition. Bonjour Alda.
Bonjour.
Et puis Christian Delécrin, qui a fait partie de l'équipe aussi de la réalisation. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et qui, lui, si je ne me trompe pas, a été rencontré les très très nombreuses personnes qui ont contribué à réaliser l'exposition en confiant des objets au musée, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, on va, la première chose évidemment à poser, et alors excusez-moi, j'ai oublié de dire que nous serons deux pour poser les questions à toute cette équipe, puisque Viviane Guenic et moi-même sommes là pour faire part de toutes nos questions au sujet de cette exposition que nous avons vue, qui nous a beaucoup intéressés, que nous avons envie de vous faire partager. Alors Christine, comment ça se fait que le musée d'ethnographie a décidé de faire cette exposition très particulière dans sa réalisation, puisqu'elle est le résultat d'une collaboration avec la Fondation Collège du Travail?
Alors je crois que sans la Fondation Collège du Travail, il n'y aurait pas eu cette exposition, parce que tout seul, on n'aurait pas eu l'idée de la faire. Alors pour la petite histoire, à l'origine, il y a eu la réaction de la présidente de la Fondation Collège du Travail, qui, à l'issue d'une animation que nous faisions à l'occasion de l'exposition Femmes, Terre de Femmes, est venue vers nous et nous a dit, au fond, ce moyen exposition, tel que vous le pratiquez à Conches, c'est pas mal. C'est vrai que ça donne une vision des choses qui est dynamique, qui est intéressante pour les gens, qui nous ouvre à des perspectives nouvelles. Mais au fond, pourquoi toujours et toujours dans cette maison, vous parlez du monde artisanal, du monde rural? Et pourquoi est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que vous avez peur du monde qui vous entoure et du monde urbain? Et puis, on s'est senti interpellé. Notre première réaction a été de dire, mais au fond, c'est vrai, on n'a pas tellement... D'abord, c'est faux. On a ici ou là aussi... fait des expositions qui concernaient le monde urbain, si on pense à l'exposition Expérience et images de la Suisse ou à des tas d'autres. Mais c'est vrai que c'est moins visible. On a une image qui colle au monde rural et artisanal. Mais on a dit, bon, pour faire quelque chose d'intéressant, nous, on ne peut pas partir tout seul sur un sujet comme ça, parce qu'il est trop neuf pour nous et surtout, nos collections ne renferment rien. Comme tous les musées d'ethnographie, le nôtre à des collections immenses, mais des collections qui concernent vraiment le monde rural et artisanal. Donc, pour partir dans une exposition, il nous faut des choses, il nous faut des objets, il nous faut des documents, il nous faut des photos, des témoignages. Et pour mener à bien cet appel, cette collecte, faire une nouvelle collection, eh bien, il nous faut des moyens que nous n'avons pas, donc des moyens financiers que nous n'avons pas. Et nous avons demandé au Collège du Travail s'il était partant avec nous pour monter un budget commun, un projet commun. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, il a été partant. Et c'est grâce à lui que l'ensemble de l'opération a pu être mise sur les rails et a donné concrètement lieu à l'exposition. C'était pas tous les jours dimanche.
Alors Alda, au sein du Collège du Travail, est-ce que c'est seulement l'idée de la présidente, comme Christine Détraves vient de le raconter, ou est-ce qu'à un moment donné, c'était une chose qui se mûrissait depuis longtemps, il faudrait qu'on trouve les moyens de parler de la classe ouvrière autrement que par des publications, parce que c'est quand même un des objectifs de la Fondation, justement, d'évoquer par toutes sortes de moyens la classe ouvrière.
Oui, bien sûr, je pense que... Le conseil de fondation, la présidente et les gens qui collaborent au Collège du Travail s'interrogent tout le temps sur les moyens qu'on pourrait utiliser. Mais c'est vrai que c'est aussi l'idée d'une personne, dans le sens que c'était un coup de tête. Elle a lancé, la présidente a lancé et puis ça, la balle, et puis ça a été repris par le musée. Mais c'est vrai aussi qu'on est intéressé à utiliser d'autres moyens que des publications, parce que pour le moment, on a surtout publié des livres de mémoire ouvrière, de témoignages sur la vie ouvrière à Genève. Et ça, c'était l'occasion pour faire quelque chose de plus... plus riche.
Alors, bon, Christine, vous le disiez, il a fallu réunir un fond d'objets. Parce que c'est vrai qu'il y a l'approche de l'ethnographie, il faut peut-être le préciser quand même, c'est d'utiliser des objets qu'on fait parler d'une façon ou d'une autre. Mais enfin, c'est un peu le point de départ. Alors, comment vous avez procédé pour constituer ce fond alors que, comme vous venez de le dire, vous n'aviez rien?
Oui, c'est vrai que c'était... Pour nous, une exposition, c'est vraiment cette occasion unique qu'a donnée aux gens, aux visiteurs, de pouvoir entendre et voir et réagir par rapport à un thème qui est proposé face à des objets qui sont des vrais, qui ne sont pas des faux, qui ne sont pas seulement des photos, etc. Cette rencontre avec l'objet, pour nous, elle est fondamentale dans nos expositions. Alors, pour concrètement faire cette... Il y avait deux possibilités. La première, c'était de faire un scénario d'exposition et puis de se dire, on va illustrer notre scénario avec des objets qu'on aurait pu trouver dans différentes collections chez des collectionneurs, qu'on aurait pu aller acheter sur le marché aux puces. Ou... L'autre façon, et c'est celle-ci pour laquelle on a opté, c'était de nous dire, on va constituer une collection, mais aussi vaste que possible. Dans un premier temps, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite, si ce n'est vie quotidienne jusqu'en 1950. Mais c'était tout. Et on va, au fond, demander aux gens de réagir par rapport à cette demande, vie quotidienne jusqu'en 1950. Quand je dis aux gens, ça veut dire aux personnes âgées de plus de 75 ans, habitant sur le territoire de Genève. Et puis ces gens vont nous donner des choses. Et ces choses, on les laisse toutes venir, mais pas toutes venir en vrac, on les laisse toutes venir, mais avec leur lot d'informations. Ça, c'est tout le travail de porte-à-porte qu'a fait Christian. Et en fonction de ce qui va nous arriver, c'est-à-dire ce moment de la collecte, il va être significatif pour nous. Et on va l'analyser, l'utiliser pour construire ce scénario. Parce que le grand problème, c'était que le quotidien ouvrier, il a été abordé à Genève sous un angle qui est celui de l'histoire du mouvement ouvrier. Nous, ce n'était pas ça notre principe de travail. Donc, on ne savait pas du tout au départ ce qu'on allait faire. On ne connaissait pas notre scénario. Et notre scénario, il s'est bâti sur la rencontre avec les gens et sur l'arrivée de cette collection. Puis quand je dis arrivée de la collection, c'est bien sûr pas seulement les objets, c'est aussi les témoignages, c'est aussi les photos.
Si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que c'est pas les événements historiques qui ont donné les jalons de l'exposition, mais la manière, mais ce que dont les gens se souvenaient, ce qu'ils ont amené.
Évidemment, c'est-à-dire que on pourrait se dire, nous on n'avait aucun a priori. Ça, c'était notre grande force dans cette expo. Comme on n'est pas historien, on est tellement naïf par rapport à l'histoire qu'on n'avait pas de parti pris. On voulait rien ni démontrer ni dire, si ce n'est d'abord écouter, simplement être à l'écoute de ce qui allait venir du côté des objets, du côté des témoignages. Et à partir de là, avec une toute petite logique, parce qu'au départ, il n'y a pas grand-chose comme logique, on a défini trois grands thèmes pour un petit peu pas trop nager, parce que aussi pas trop faire peur au collège du travail. Dans les premières séances, dans les premières réunions, il fallait quand même qu'on leur montre qu'on savait où on nageait. C'était de dire, vous en faites pas, nos trois grands thèmes, ça va être trois temps dans la vie d'un ouvrier. C'est le temps qu'il passe sur son lieu de travail, le temps de la famille, de la vie quotidienne dans la maison, et puis un temps interstice, ce qui se passe entre les deux, entre les obligations de l'un et les obligations de l'autre. Et puis, quand les objets arrivaient, ils étaient un peu dans notre esprit, immédiatement, ils partaient au troisième étage ou au rez-de-chaussée ou au premier. Mais en même temps, ça ne se passe pas exactement comme ça, parce que des objets, c'est extrêmement encombrant. Donc, tout ça se passe sur papier, sur cogitation, sur... Mais en fait, ouais, c'était comme ça. Tout ça a été très, très progressif. C'est très tard qu'on a eu le vrai scénario de l'exposition. Mais c'est normal, ça se passe toujours comme ça.
Mais quand même, dans l'exposition, il y a des événements historiques qui restent des jalons très importants.
Bien sûr, parce que quand l'exposition, quand le scénario s'est mis en place, on s'est rendu compte que nous, à chaque pas, surtout par rapport au monde du travail, on se heurtait évidemment à des événements historiques ou à des éléments historiques extrêmement importants. Et puis c'était un peu ce regard un peu naïf. On découvrait plein de choses, et c'est plein de choses qu'on découvrait, que les historiens connaissent par cœur depuis toujours. Eh bien, nous, on a eu envie de les mettre en perspective par rapport à un visiteur qui n'est pas historien. Alors, c'est des choses toutes simples, nous, nos grands moments historiques qu'on essaye de rappeler. Et ça, on l'a réalisé avec la Fondation Collège du Travail. S'il n'y avait pas eu Alda pour nous aider dans toute cette partie-là, ben, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus restreinte, parce qu'on aurait mis trop de temps à entrer là-dedans. Évidemment, le quotidien allait gagner un demi-étage de plus. Mais comme il y avait la Fondation Collège du Travail, avec tous ces trésors, c'est vrai qu'il y avait aussi envie de les utiliser, puis qu'on était avec des bons partenaires pour aborder ça. Alors je prends l'exemple des vacances ou de la réduction du temps de travail. Ça, c'est des choses qui se sont imposées petit à petit, parce qu'on n'arrivait plus à lire la photo, une photo d'un ouvrier dans un chantier ou qui pose avec ses collègues d'atelier sans se dire mais ce monsieur, il travaillait combien d'heures à cette époque? Et puis évidemment qu'il nous l'avait dit ou qu'on avait posé la question, parce que c'était des choses qui nous intéressaient. Donc on avait envie de savoir, mais historiquement, légalement, comment ça s'est passé, toute cette... Et on arrivait bien sûr à l'histoire de ces longues luttes qui amenaient les acquis sociaux dont on bénéficie maintenant.
Mais Alda, tu as fait la démarche inverse que Christine raconte maintenant, toi, en fait. Oui. Finalement, toi, tu partais des événements historiques et tu as dû découvrir l'approche par les objets.
Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout ethnologue et j'ai découvert en participant à cette exposition ce que c'est de faire une exposition d'ethnographie, qu'est-ce que c'est l'ethnographie, qu'est-ce que c'est de collectionner des objets et puis de les faire parler, de les situer, de raconter l'histoire d'une autre façon à travers... justement là, ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire les objets et pas l'histoire des idées ou l'histoire des événements socio-économiques. Et ces événements socio-économiques, on a réussi quand même à les faire vivre, mais à travers cette mémoire, c'est-à-dire qu'on a utilisé les objets, c'est-à-dire à ceux qui nous écoutent qui n'ont pas vu l'exposition, ce sont toutes sortes d'outils, par exemple, ou bien les outils du travail, ou bien des documents sur la vie au travail, c'est des photos, ou bien c'est des outils de la vie ménagère. Il y a beaucoup de machines à coudre, donc c'est très concret. C'est vraiment les objets de la vie quotidienne, parce que le thème de l'exposition, c'est la vie quotidienne dans le monde ouvrier, hein. Et petit à petit, bon, si je veux parler de moi, c'est un peu le contraire. J'ai découvert qu'il pouvait y avoir une richesse, une logique, un intérêt immense dans cette démarche, plutôt que de partir. Mais moi, j'avais besoin des repères chronologiques, j'avais besoin des fêtes, j'avais besoin d'avoir que cette exposition parle de fêtes les fêtes socio-économiques importantes de cette époque, ils soient là. Et puis petit à petit, ça s'est passé différemment. C'est les objets, puis la mémoire, c'est-à-dire ce que les gens nous ont raconté qui prime, parce que c'est ça la nature de cette expo, c'est pas une expo historique.
Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous trois, puisque aussi bien Christian qui a fait qui est allé chercher les objets chez toutes les personnes, que vous, Christine et Alda, qui avez été, je crois, interviewer encore d'autres personnes pour avoir des compléments d'information. Alors, on écoute juste une chanson de Gilles Urfer sur la ronde des métiers, puis après, on discute de tous ces objets-là.
Le cordonnier fait des souliers, d'un cuir neuf son échoppe est pleine.
Vas-y, tape sec, cordonnier, tire le lignol avec la laine, taille l'enteigne et le quartier.
Il
du cordonnier, vieux gnaf écoute, me font de grosses godasses à clous. C'est pour courir sur la grande route, la boue, la poussière, les cailloux. Cordonnier, je veux pour ma belle de fins escarpins de satin, tous éligés comme les ailes, c'est pour vasser jusqu'au matin. Ouvrez-vous des socs, des bottes, des richelieux, des brodequins, ça tient dans l'eau et dans la crotte. Voyez le travail du cousu main, des souliers pour danser la ronde, la vieille ronde du métier, c'est le qu'on mène autour du monde. Vive le métier de cordonnier! Menuisier, travail de bois, artisanation de la planche, la journée noce, allez, grouille-toi, il me faut un lit pour dimanche, et large comme un lit de roi.
Menuisier, ma femme est en couche, lâche tout, saisis ton rabot, on sent déjà le petit qui bouge, on va lui foutre un beau berceau. Le gosse est né, la mère est morte, menuisier, mon cœur est en deuil, travail il faut que je rapporte, pour ma pauvre lise un cercueil.
En voulez-vous, voici du chêne, du bois, des îles, de la cajou,
du noyer, de l'âme, du frêne, cœur des forêts, ça tient debout, un tréteau de bois pour la ronde, la vieille ronde du métier, c'est le qu'on mène autour du monde. Vive le métier de menuisier.
Le paysan laboure son champ, hardi mes voeux, la terre est grasse,
jette la graine dans le vent,
le soleil vêtira l'espace dans mon manteau couleur de printemps.
Voici l'été, le blé superbe se couche en cercle sous la peau,
la batteuse engloutit la gerbe,
nous aurons le pain qu'il nous faut.
Le torse nu, blanc de farine, le boulanger dans le pétrin, grâce à plein bras la pâte fine, que déjà gonfle le levain. Faut des paysans pour la légume,
faut des maçons pour la maison,
faut un forgeron pour l'enclume, faut un poète pour la chanson. Le joli refrain de la ronde, la vieille ronde du métier, c'est le qu'on mène autour du monde. Vive les métiers, les beaux métiers. Dans le joyeux charivari, des beaux métiers, des métiers nobles,
formes, matières et coloris,
soieries de Lyon, gants de Grenoble,
chapeaux et robes de Paris.
C'est la maison qui s'illumine,
le livre ouvert sous l'abat-jour,
c'est le bijou sur la main fine,
toutes les parures de l'amour.
Artisan, ma merveilleuse, créateur de joie et d'espoir, magicien de la vie heureuse, puissiez-vous en ce siècle noir, en ces temps de haine et de honte,
face aux sinistres armements,
face aux robots d'acier qui montent, ah, puissiez-vous, homme vivant,
longtemps encore mener la ronde, tous ensemble en bonne amitié, pour sauver dans ce triste monde la joie et l'honneur des bons métiers.
Mon père, employé au tram et fervent syndicaliste, participa à la grève générale de 1918. Pour assister aux discussions et assurer les piquets de grève, il lui fallait faire le trajet Cartigny-la-Jonction et retour à pied. Ça faisait plus de 20 km. Un voisin lui prêta son vélo et tant bien que mal, avec des zigzags et des embardés et peut-être quelques chutes, il fit le parcours à bicyclette. Et c'est ainsi qu'il fit, à 27 ans, son apprentissage de cycliste.
Alors, voilà un des nombreux témoignages recueillis au cours de votre travail. Alors, je ne sais pas, la dame qui parle a l'air très âgée. Vous avez rencontré au cours de vos nombreuses rencontres des gens très âgés, comme au minimum 75 ans. C'était ça le critère, Christian ?
Oui, c'était le critère de ce qu'on s'est donné. C'est l'âge qui correspond un peu à ces personnes qui ont vécu cette époque. On envoyait, ça fait à peu près 30 à 32 000 personnes dans le canton de Genève qui ont reçu un petit dépliant avec un inventaire l'après-vert d'un nombre d'objets qu'ils pourraient retrouver chez eux. Ça va de la passe à linge, de la machine à laver, au vélo, que sais-je. On leur posait la question, est-ce que vous avez des souvenirs, est-ce que vous avez gardé des objets, des documents concernant cette époque de 1890-1950 ? À peu près plus de 500 personnes nous ont répondu. Nous ont retourné
c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, document. Je me rends pas compte.
Si on regarde peut-être sur les 30 000, ça paraît peu, mais dans le fond, pour une collecte, pour une demande d'une collecte, d'une exposition, avec une catégorie de personnes assez âgées, dans le fond, je crois que c'est quand même beaucoup.
Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'avait pas envie qu'il y en ait beaucoup, tellement plus, parce que ça nous a vraiment suffi.
Ça représentait, c'est vrai, on avait de la peine à imaginer le travail que ça pouvait représenter. Comme Christine parlait, au niveau des objets, ça prend de la place. Il y avait déjà eu à Conche une exposition sur les souvenirs d'école où une collecte avait été faite, mais dans le fond, on se borne avec des crayons, des abécédaires, des livres, tandis qu'ici, on se retrouve avec des objets de 200 kilos, tout d'un coup, monumentaux. Enfin, ces personnes, on a pris contact avec chacune, on leur a posé un peu la question au téléphone pour savoir pourquoi elles téléphonaient, qu'est-ce qu'elles avaient à nous donner ou à nous prêter. Au début, nous avons accepté plus facilement les prêts, ensuite, voyant un petit peu le flot d'objets que nous avons reçus, nous avons plutôt privilégié les dons, qui sont quand même beaucoup plus faciles à gérer. Et ces gens, on a pris rendez-vous avec, on était les voir. Et c'est peut-être là un petit peu les surprises, les quelques surprises en allant visiter ces personnes. Par exemple, je m'attendais à être beaucoup plus souvent dans des quartiers populaires, de se retrouver peut-être dans les grottes, le vieux quartier des grottes, ou au Paquis, aux eaux vives, dans des petits appartements d'ouvriers exigus. Et puis, ce n'est pas toujours été le cas. La plupart du temps, je me suis retrouvé dans des petites maisons, des petites villas, ces petites maisons des années 30 qu'on retrouve beaucoup vers le chemin du Point du Jour, Pré-Cartelier, sur la rive droite, ou Petit Lancy, ou beaucoup aussi Chêne-Bougerie, Chêne-Bourg. Et dans le fond, c'était des ouvriers qui avaient eu la possibilité de se construire ces maisons. Et aussi peut-être le fait que les personnes qui sont en appartement n'ont pas pu garder d'objets. Tandis que dans les maisons, on a tendance à entasser, on ne se souvient plus qu'on les a, et de recevoir peut-être notre petit papier, dire « mais voilà, tiens, j'ai ça au grenier, j'ai pas envie d'y jeter ». On s'aperçoit aussi la différence de relation que ces personnes âgées ont avec les objets par rapport à notre génération, mes générations d'après-guerre, où on voit ça tout à fait dans notre œil. On vous donne une casserole, nous, si on a une casserole, elle est abîmée ou elle est trop vieille, on la jette. Et si on nous pose la question, où c'est que vous l'avez achetée, vous ne savez plus dans quel magasin vous l'avez achetée. Tandis que ces vieilles personnes, même avec 50 ans de recul, elles disent, mais oui, cette casserole était ma belle-mère qui l'avait reçue elle-même de sa mère, etc. Donc, ils connaissent l'historique, l'histoire de ces objets. Et ça, c'était une des surprises les plus importantes. Et je trouve, et là, on voit vraiment cette relation qui a complètement disparu. Qui pour nous a été intéressant, qui a pu faire parler sur ces objets, on a pu faire parler les gens, leur faire parler de leur vie.
Mais pourtant, on voit au tout début de l'exposition au musée de Conche, des réponses qui vous ont été données, où des gens disaient « Ah non, j'ai plus rien parce que cette période était trop sombre, pourquoi avoir gardé des objets de cette époque-là »
C'est vrai, on entend un petit peu de tout, il y a toujours les éternels nostalgiques, c'était beaucoup mieux, c'est vrai que c'était dur, mais la vie était beaucoup plus belle, on discutait beaucoup plus. Et puis, il y a aussi une partie de la population, de ces personnes, elles ne veulent pas se souvenir. Elles ont souffert, ou pour elles, c'est une époque un petit peu qu'elles veulent ou cacher. Peut-être qu'on pourrait en savoir plus, mais il faudrait avoir plus qu'une année ou une année et demie pour faire une collecte comme ça. Il faut passer beaucoup plus de temps avec les gens. Certaines personnes vont vous donner des objets qui ont une certaine valeur, une valeur pour elles. Il y a des exemples bêtes, des tickets d'approvisionnement par exemple. Nous avons reçu beaucoup de tickets d'approvisionnement, les coupons de rationnement pendant la guerre. Alors certains vont vous donner un carton à chaussures. On ne sait pas pourquoi ils les ont gardés, mais on ne sait jamais. Bon. Mais d'autres personnes vont vous prêter. Il restera deux coupons dans une petite enveloppe et on vous la prêtera parce que ça représente tellement de choses qu'on ne va pas la donner.
Mais moi, je pense que les gens qui nous ont répondu, c'est pour ça qu'on a mis ces lettres aussi de gens qui nous répondent pour nous dire non, c'est absolument extraordinaire. Vous imaginez l'importance qu'ils ont accordée à ce petit prospectus pour qu'ils prennent la peine de répondre pour dire non. Donc, on tapait très juste, mais effectivement, c'est très juste, mais parfois très, très profond. Et moi, j'aime beaucoup ces réponses négatives. Elles me touchent énormément.
En tout cas, c'est ce qui nous fait penser que c'est sûr que c'était une période difficile. Le fait que les gens aient envie de dire non, on n'a plus rien, parce qu'entre autres, on n'a plus pas voulu garder des signes de cette époque, ça montre que vos titres, en tout cas, il avait toute sa force et sa valeur. C'était pas tous les jours dimanche, c'était un moment difficile. Bon, qu'on découvre bien sûr après quand on parcourt l'exposition, mais déjà rien que par ces réponses, en tout cas, ça peut nous donner déjà un petit fil rouge.
Et puis aussi que ces objets, souvent, dans la plupart des cas, c'était des objets vraiment de peu de valeur. Ce sont des objets de la vie les plus courants, qui n'ont pas de valeur, qui se sont usés, que les gens usaient jusqu'à l'extrême limite. Donc ils les ont peut-être aussi jetés parce qu'ils ne veulent pas avoir de souvenirs d'une époque mauvaise, mais c'est aussi parce que... ils vivaient avec rien, ils avaient peu.
Hein. Ils ont pas de valeur, mais
ils avaient peu.
C'est cette valeur, comme je disais, sentimentale, de connaissant l'histoire de ces objets.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes...